Donc il dit ça. Le verset il dit Vaiten el Moshe qui falotol daberito, Be'am Sinai, Shne Luchot Aidut, Luchot Even, Ktuvim Be'ezba Elokim. Et il a donné, c'est Hachem, Hachem a donné à Moshe, lorsqu'il eut fini de parler avec lui, sur la montagne du Sinaï, il lui a donné deux tablettes, table de témoignage, Luchot Aedut, Aedut c'est témoignage, Luchot Even, des tables de pierre, il lui a donné ces tables de pierre qui étaient Ktuvim, écrites Be'etzba Elohim, écrites par le doigt d'Elohim. En fait, elles sont gravées par le doigt d'Elohim. Donc, on est ici dans le récit du don des tables qui est juste avant le récit du veau d'or. Juste après, la Torah elle va rapporter l'histoire du veau d'or. Alors, le Midrash il parle sur les louchot pour l'instant. On parle que de ça. Davar acher, autre chose. Il y a déjà eu plusieurs paragraphes, mais on n'a pas le temps avant Shavuot. Je vais vous le garder. Ceux-là, ils sont plus directs. Vaiten el Moshe, donc ça c'est le début du verset. Bonsoir. Rabbanan amre, les Rabbanan disent, ilu asu Israël otom maase, ad shelo nitnu aluchot le Moshe, lo ayu yordim beyado. Bonsoir. Si les Bnei Israël avaient fait cette faute, cette chose, donc c'est la faute du veau d'or, s'ils l'avaient fait avant que Hachem ait donné les tables à Moshe, les tables, elles n'auraient pas été descendues. Moshe n'aurait pas pu descendre avec les tables. Ça, c'est ce que disent les Rabbanan, les maîtres. Le Rabbi Levi Amar, Miche Asu Oto Maase, Natan Akadosh Baruch Hu le Moshe Taluchot. Rabbi Levi dit, c'est pas vrai. Enfin, il n'est pas d'accord. Il dit, au contraire, Hachem n'a donné les tables à Moshe qu'après que les Bnei Israël aient fauté. Moshe ne le sait pas. Moshe, il est sur le Sinaï. Les Bnei Israël, ils fautent ici. D'accord? Mais bon, évidemment, Hachem sait bien ce qui se passe. Les Bnei Israël sont déjà en train de fauter, et à ce moment-là, Hachem donne à Moshe les louchot, les tables. Donc il y a une discussion. Les Rabbanan disent, si ils avaient fait la faute avant que les tables aient été données à Moshe, Hachem n'aurait pas donné les tables à Moshe. Et Rabbi Levi dit non, pas du tout. Il les a données à Moshe alors que il savait pertinemment, évidemment, Hachem sait tout. Mais c'est pas qu'il le sait qu'ils vont le faire. Ça avait déjà été fait.
Mais est-ce qu'il les a donnés quand même, ou est-ce qu'il a décidé de donner alors, des tables
alors ça, là, on n'entend pas. On n'entend pas dans ce que dit Rav Lévi, cette nuance-là, on n'entend pas. On n'entend pas ce que. Ouais. On va voir comment. On va voir dans la suite. Ouais. Il dit pourquoi. Rav Lévi, il s'appuie, c'est écrit, c'est le texte. Le texte dit, Vaiten el Moshe kechalotol daberito. Il lui a donné.
Allô?
Oui, Khan.
Allô?
Oui.
Oui, voilà.
No merci. Comment. Voilà, sans commentaire.
Belloni est
Ouais, attends.
Khan fait son.
Qu'est-ce qu'il y a?
Khan fait son festival?
Ah, il y a les français. Deux. Ouais. Je crois que Bellamy, il est peut-être là aussi.
Ah, ça y est, ça commence.
Il est là? Tu es là, Jacob?
Oui.
C'est bien. Alors, reste-y. Donc, le problème, il a donné, Hachem a donné les tables à Moshe Rabbeinu, dit Rabbi Lévi, après que les fautes, après que l'Ebn Israël ait déjà fauté. Moi, je ne sais pas, évidemment. Mais la preuve qu'il apporte est étrange. Il dit, que Moshe Katouv, comme c'est écrit, va iten el Moshe, ki chalotol daber ito. Il lui a donné quand il a eu terminé de parler avec lui. Où est-ce qu'on voit là-dedans que les Bnei Israël ont déjà fait le veau d'or? Alors peut-être, ça va venir après. Amar Rab Shimon ben Lakish, Maul et Daberito. Qu'est-ce que veut dire le verset quand il dit, quand Hachem a eu terminé de parler avec Moshe, de parler avec lui? Machal. On donne ici une parabole. Le Talmid, chez Limdo Rabo Torah, c'est un élève, son maître lui enseigne la Torah. Ad shelo Limdo, aya harav omer, vehu one acharav. Mi shelimed oto, omer lo rabo, bo venomra ani veata. Car, que chez Allah Moshe Hashamaim, itril lomar, achar boro a Torah. Kshelimda, je sais pas, quand il l'a apprise, Amar bo venomra ani veata. Et ve le daber ito. C'est comme ça qu'il faut entendre le daber ito. C'est-à-dire, ce qui dérangeait le Midrash, c'est lorsqu'il a eu terminé de parler avec lui. Et, ça veut dire avec. Oui. Ito, c'est avec lui. Le Midrash, il veut entendre ici que c'est pas que Hachem parlait avec lui, comme on dit. Je parle avec quelqu'un, alors c'est moi qui parle, et le quelqu'un en question, il écoute. Ça s'appelle parler avec quelqu'un. Le Midrash, il veut entendre qu'il parlait avec lui, au sens, lui aussi il parlait. Que Moshe Rabbeinu aussi parlait. C'est ça qu'il dit ici, que Resh Lakish dit ici. Il dit, il faut entendre la chose de la manière suivante. Il donne une parabole. Bon, on verra pourquoi on a besoin de passer par une parabole pour ça, comme toujours. Mais bon, pour l'instant, regardons ce qui est écrit. Lui, il dit, c'est le maître enseigne à l'élève. Et ça se passe comme ça, le maître dit et l'élève répète.
Il ne parle pas en même temps.
Il ne parle pas en même temps. Mais quand l'élève a appris les choses, alors, semble-t-il, le maître l'invite, disons-le, ensemble. Donc, c'est plus l'élève qui répète, le maître et l'élève disent ensemble ce que l'élève a appris. Et donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que après qu'Hachem ait enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, Hachem et Moshe Rabbeinu ont dit ensemble la Torah. Ils ont révisé ensemble, mais pas que Moshe a répété ce qu'Hachem disait, ils ont parlé ensemble. D'abord, Ito. C'est ça que ça veut dire. Ito avec lui. Ils parlaient et ils parlaient tous les deux. Le Ito va pas sûr. C'est pas qu'il parlait avec lui comme nous. C'est vrai que c'est en français, c'est un peu ambigu. Parler avec. Est-ce que ça veut dire parler en même temps ou parler à quelqu'un? D'accord, on peut dire les deux. Parler avec, ça veut dire parler en même temps que.
C'est plutôt avec.
Pardon?
C'est plutôt avec.
Parce qu'a priori, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir des gens qui parlent en même temps. Oui, bon. Non, je veux dire qu'ils disent la même chose en même temps. Ah bah, alors maintenant, la suite du verset, c'est marqué qu'il lui a donné, après qu'il ait terminé de parler avec lui. « Kechaloto. Le chalot, c'est la chanson kol. D'accord? Ça s'écrit kaf lamed, ça veut dire tout. Kechaloto, c'est terminé. Alors, le Midrash demande, qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment il faut entendre kechaloto? C'est le nouveau Reish Lakish qui parle. Il dit, kol mi sheu motzi divrei Torah, tout celui qui énonce des paroles de Torah, ve'enan arevim al shome'en, et ces paroles de Torah ne sont pas agréables à entendre par les auditeurs, que kala shei areva le ba'ala, c'est pas aussi agréable pour les auditeurs à l'entendre que ne l'est une kala aux yeux de son mari. Noach lo shelo amaran. Il eût mieux valu qu'il ne les dise pas. Bon, on s'en va, oui. Je m'en vais. Je vois pas que vous soyez tellement content. Donc, très bien. Il y en a même qui rit.
J'ai pas entendu.
Non, t'as rien entendu. Lama, pourquoi ça? Chez Bichar, chez Nathan HaKadosh Baruch Hu et la Torah l'Israël, lorsque Hachem a donné la Torah au clan Israël, Aïta Chaviva Alehen Kekala Shei Chaviva Al Ben Zuga. La Torah leur était aussi précieuse qu'une kala pour son conjoint. Minaïn, d'où on sait que ça? Où est-ce que c'est marqué une chose pareille? Shenemar va'iten el Moshe kechaloto. Il l'a donné à Moshe comme si c'était sa kala. Il a pris le midrash, il prend kala, kaloto, comme la kala, comme la fiancée. C'est le même mot.
Kalato.
Kalato. C'est la même graphie, n'est-ce pas? Kalato que Kalato, c'est la même chose. On va jusqu'au bout. Amar Ablevi, Amar Ab Shimon Lakish, Resh Lakish, Ma Kalazu me kushetet bechav daled minei tarshitin, kach talmid chacham tzarich liyot zariz bechav daled sfarim. Il y avait un minag que la Kala, elle avait 24, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, accessoires. D'accord? La fiancée, le jour de son mariage, elle avait toutes sortes de tchouk-tchouk, je sais pas quoi. Il y en avait 24, quoi. Des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des tas de trucs, des colliers de un truc là.
Déjà à l'époque.
Ah ben oui, à l'école, à l'époque, c'est écrit dans le temps, il y a des anneaux de nez.
C'est comme les matanotes que les
coalitions. Voilà, oui. Alors, le Talmid Chacham, il doit être aussi à l'aise. Pourquoi 24? Parce que le Talmid Chacham, il doit être zélé, il doit bien connaître les 24 livres. 24 livres, c'est toute la Torah. La Torah, Nevi'im, Ketuvim, ça fait 24 livres. Kechaloto, encore une autre racha. Amar Reish Lakish, ma kalazu, kol yamim shei bebet avia. Matznaat atzma, vein adam makira. Ukseba, likanes lechupata, imigala panea. La kala, tant qu'elle est chez son père, elle se cache, personne ne la voit. Mais quand elle va entrer sous la choupa, alors elle dévoile son visage. Klomar kol mi sheu yodeal li edut. Si quelqu'un connaît un témoignage en ma faveur, yavo veyaid alai, qu'il vienne et qu'il témoigne pour moi. Kach talmid chacham tzarich liyot tzanua ke kala azo. Le Talmid Chacham, il doit être réservé comme cette kala chez son père, ou me foursam be maasim tovim ke kala azu. mais il doit être connu pour ses bonnes actions, comme la Kala dans l'autre situation. Donc, il doit être tsanoua, il doit être discret, réservé, comme la Kala quand elle est chez son père, et il doit être connu uniquement pour ses, mais très connu même pour ses bonnes actions, comme la Kala quand elle va sous la choupa. Et c'est ça le Vaïten el Moshe Kichaloto. C'est ça la dracha que fait, c'est une des drachotes, il va y avoir d'autres, il y en a déjà eu d'autres avant, que le Midrash fait sur ce premier, sur ces quelques mots-là, qui annoncent que Hachem a donné les Luchot à Moshe Rabbeinu.
Qu'est-ce que ça changerait? Quelles seraient les conséquences?
Non, mais y a l'idée quand même que est-ce que les Bnei Israël méritent qu'on leur donne les Luchot s'ils ont déjà fait la faute? Moshe Rabbeinu, il reçoit, on verra après, mais disons que Moshe Rabbeinu reçoit au nom des Bnei Israël. Bon, mais même si l'envoyé, il ne sait pas encore que celui qui l'a envoyé c'est d'une certaine manière disqualifié. Néanmoins, celui qui le sait, celui qui lui donne, il sait que, bon, on va pas te le donner. Je vais pas te le donner, les Bnei Israël ne le méritent pas. Et puis, il y a Rav Lévi qui dit non, pas du tout. C'est en toute connaissance de cause, la Torah, elle a été, les Luchot, en quelque sorte, ici, elles ont été données alors que les Bnei Israël ne les méritaient pas, d'une certaine manière. Et alors le problème, c'est qu'elles vont être données et brisées après. Et Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, t'as bien fait de les briser. Et Hachem kochacha sheshibarta. Donc la question qui va se poser, c'est pourquoi les donner si ensuite on veut les briser? Il faut qu'elles soient brisées. Et peut-être qu'il faut que ce soit le clan d'Israël lui-même qui les brise. Enfin, que ce soit Moshe qui les brise. Hachem, lui, dit... Ce qu'on pourrait, on pourrait dire d'un certain côté, que d'une certaine manière, Hachem y fait son plan. Et d'une certaine manière, rien ne change pour Hachem, quelle que soit la conduite des Bnei Israël. Seulement...
Comment ça, quelle que soit la conduite?
Hachem, il n'est pas affecté par notre conduite.
Ah, oui.
Mais maintenant, le... La marloquette entre les Rabbanan et savoir est-ce que oui ou non, Lévi qui dit qu'au contraire, c'était donné, et évidemment Hachem il sait très bien que, bon, Moshe, enfin, il faudrait les casser, mais il faudrait que ce soit les hommes qui les brisent, qu'ils se sentent eux-mêmes pas à la hauteur de recevoir une chose pareille. En fait, une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot, c'est parce qu'il pensait que si les Bnei Israël avaient les Luchot seraient un accusateur permanent. Comment on a, vous avez des Luchot et vous avez fait une faute pareille. Alors Moshe Rabbeinu l'a enlevé la trace, qu'elle a cassé le thermomètre. C'est pas que la faute n'a pas été faite, mais en tout cas, on n'a pas cette accusation. Voilà, on est face aux tables, en fait. Et à part ça, si on les donne pas, alors, les Bnei Israël, à la limite, ils n'auraient pas su que, bon, il a pas, Moshe Rabbeinu est allé, il a appris la Torah, il est redescendu. Il n'y a pas de traces matérielles. Les Bnei Israël, ils ne savaient pas que Hachem allait donner des Luchot. Ils n'en savent rien. Et on peut pas même, ça, c'est impensable que Hachem, les premières Luchot, c'est Hachem qui a donné les tables elles-mêmes. Elles sont, dans les deuxièmes, c'est Moshe qui a dû monter les pierres et Hachem a gravé. Et dans les premières, c'est Hachem qui lui a donné les tables gravées, point barre. Donné à la fois le support, enfin, la matière dans laquelle c'est gravé, et l'écriture, en fait, et la gravure. Mais ça, les Bnei Israël ne le savaient pas. Donc, à la limite, si Moshe Rabbeinu était descendu sans, ben voilà, c'est... Il aurait pu leur dire, je sais pas, Hachem voulait me donner, mais vous n'avez pas mérité. Bon, c'est pas du tout aussi marquant si on descend les Lourdes et que devant eux, ils les cassent. Ils se sont rendus compte que, voilà, c'est...
D'accord, j'ai oublié, mais quand Moshe monte, il sait qu'il va avoir les Lourdes.
Hachem lui dit, il va monter, il va lui donner les Lourdes. Et Moshe le sait.
Ouais. Avant de monter.
Ouais, mais il ne sait pas non plus ce que ça veut dire.
Non, non, non. D'accord.
Hachem le fait monter, il va lui enseigner la Torah. Et lui en... À la limite, comment rêver qu'Hachem va donner un truc comme ça.
Mais donc, la question, une des questions, c'est est-ce qu'il a donné les Lourdes, sachant quand même, Rabbeinu, c'est ce qu'il dit. Il dit, Hachem sait évidemment ce qui se passe en bas, mais il les donne quand même.
Oui.
Ou même plutôt...
Peut-être qu'il donne Dafka.
Dafka, ça veut dire parce que...
Justement, pour
justement,
ça.
Justement, voilà, ouais. Mais ce qui est... On ne dit pas que justement, j'ai vu que le fait que ça soit transparent, c'est presque au pied de la lettre, c'est-à-dire que pour cette... S'il n'y avait pas eu la faute, la compréhension de la Torah aurait été transparente. C'est-à-dire, transparente, ça veut dire, quand on dit c'est
sans
transparent,
effort.
C'est sans effort. C'est compréhensible de tous. Et que justement, le fait qu'il y ait la faute, c'est pour que justement...
On est les deuxièmes tables qui, elles, ne sont pas.
Qui, elles, ne sont
transparentes,
pas.
C'est
la Torah chez Malpé, en fait, après, non?
Non, mais... Enfin, aussi, mais... Oui. Mais la Torah chez Malpé, elle était aussi écrite. Enfin, elle était donnée en même temps. Donc, si vous voulez, l'idée est que dans les premières loupotes, bon, il suffisait de lire et on savait tout.
Ouais.
Tandis que dans les deuxièmes, il faut bosser.
Oui.
Il y a tout un travail de Amal à Torah, tout l'effort de l'étude de la Torah.
Oui. Mais ça fait, bosser, ça fait comme si c'était une punition, alors que...
Ah non, pas du tout. Ça n'est pas du tout une punition.
C'est-à-dire, avec effort, si on dit sans effort.
Pardon ?
Pour se qualifier.
Non, mais peut-être aussi, à la limite, la Torah, comme... qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? Il est en train de dire, en gros, que la Torah, elle doit être tellement agréable, tellement désirable, d'accord ? Alors que l'effort, c'est rien du tout.
Pour la deuxième solution, vous dites ?
Non, mais on est dans les premières pour l'instant, c'est celle qui va être brisée. Mais à la limite, on pourrait dire, même si dans les premières, il y avait un effort à faire, mais c'était dans cet effort, c'est comme les années de travail de Yaakov pour Rachel. Mmh. Ça lui a paru, c'était 7 ans, mais ça lui a paru comme rien du tout, par amour pour elle. Et donc ici, on présente la Torah comme étant tellement désirable. C'est tellement désirable que ça ne demande aucun effort. Au contraire. Donc, si vous voulez, je pourrais... Dans ce midrash, on pourrait presque dire que dans les premières luchot, il y avait aussi du travail à faire, mais ce travail ne pesait pas du tout. C'est un travail qu'on fait par amour. C'est des choses que tu fais par amour, ça ne te pèse pas.
D'où l'analogie, le machal avec...
avec la kala. C'est pas doux. C'est parce que... Parce que le Midrash donne cet exemple-là avec la Kala, qu'on peut être tenté de dire que finalement, on n'est pas obligé de dire qu'il n'y avait aucun effort à faire. Mais que l'effort à faire, encore une fois, moi je répète, que l'effort à faire, dans la mesure où il est fait par amour, dans un grand désir, c'est aucun problème. Je suis pas d'accord ? J'avais le droit d'être pas d'accord. Oui.
Est-ce que Moshe, en prenant l'hypothèse de Rabbanan, si Moshe était descendu sans les Lourdes, est-ce que on aurait pu accuser de la même manière que l'Israël sur Egen? Et donc, autrement dit, que toute cette génération-là aurait dû quand même... qu'ils doivent tous mourir sur les 40 ans qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même plus de responsabilité lorsque Moshe descend, avec la loi et pour les accuser, enfin pour les accuser, et donc il y a une responsabilité plus forte qui leur incombe, même s'ils cassent les louchotes. Mais descendre sans les louchotes, ça allège, j'allais dire, la faute.
Ouais, ce que je dis avant, c'est que les Bnei Israël, ils n'auraient peut-être pas ressenti autant. Il n'y aurait aucune faute, mais ils n'auraient pas ressenti l'absence. Si vous voulez, cette chose désirable, etc., quelque part, ils ont dû sentir que ces louchot, c'était quelque chose d'extrêmement désirable. Mais donc, là, en tout cas, ils sont frustrés. Et donc, comme vous dites, c'est effectivement, ils se rendent compte. Mais voilà, on a perdu ça. Sinon, ils auraient su qu'ils ont fait une faute, mais ils n'ont rien perdu, en fait. On a fait une faute, d'accord, on va se remettre de la faute. Mais ce n'est pas que ça nous fait manquer quelque chose d'extrêmement désirable. C'est comme si ils n'auraient pas ressenti que, ben voilà, on aurait pu avoir une kala et on ne l'a pas. Tout à coup, il y a eu ce désir pour la kala, puis ensuite, c'est frustré. Non, c'est tout à fait ça. C'est sûr que la faute apparaît pour les Bnei Israël beaucoup plus clairement grâce à ça. Bien que dans la Torah, on ne voit pas cet aspect-là des choses. Dans la Torah, on voit qu'ils ont fait une faute énorme et qu'il faut tuer les gens qui ont fait la faute, point barre. Bon, le Midrash, ici, il sort quelque chose de... Justement, je crois, il sort justement cette idée d'amour. Il sort cette idée de la désirabilité de la Torah. Quand tu me fais Rosh Lakish.
Je n'arrive pas bien à comprendre ça par rapport au Midrash, là, à part sur l'analogie avec la Kala, mais je ne comprends pas, je ne saisis pas ce que...
Mais pourquoi il a...
Je ne comprends pas ce que vous dites sur
le Midrash. Le Midrash, il amène ce machal, ouais, cette parabole. Alors allons-y comme ça. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai besoin de cette parabole? Le Midrash, il aurait bien, très bien pu me dire directement les choses. En général, si le Midrash passe par une parabole, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas dire directement et que par le biais de la parabole, on peut. Alors, comme toujours ici, c'est une parabole entre quoi et quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans la parabole? Regardez. D'accord, la parabole, c'est quoi? Un maître qui enseigne à son élève la Torah, et avant que l'élève ait appris par cœur, qu'il ait vraiment intégré les choses, le maître lui enseigne et l'élève répète. Sa façon d'apprendre, c'est de répéter après le maître. Mais une fois que l'élève a acquis, il a la connaissance de ce que le maître lui a enseigné, alors tout à coup le maître lui dit, viens, on va le dire ensemble. Alors, comme toujours dans le Midrash, après avoir donné cette parabole, le Midrash nous donne les clés de la parabole. D'accord? C'est pour ça qu'on ne comprend jamais à quoi sert la parabole. Si tu me donnes les clés derrière, dis-moi tout de suite ce qui a été dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? De la même manière, quand Moshe Rabbeinu est allé en haut quand il est monté, alors il a commencé à réciter la Torah après le Créateur. Mais après qu'il l'ait apprise, Hachem lui a dit, disons-la ensemble. Et c'est ça le sens de Chaloto le Daber Ito. Il a fini de parler avec lui au sens de non pas de lui parler au sens habituel du terme, mais de parler avec lui. Ils sont tous les deux en train de dire ensemble la Torah. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une parabole ici?
Moshe, par exemple, pour dire la même chose, quand même, à sa place, Moshe,
Ça, c'est, on n'ose pas le dire directement qu'en fait c'est Hachem qui parle avec Moshe, mais c'est écrit explicitement après, non?
Comme si c'était son interlude.
Oui, mais c'est bien ce qu'il a traduit, non? Le Midrash le dit, qu'il parle avec son créateur. Mmh. Quelle est la différence entre ce qui est dit dans le... Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est dit dans la parabole et ce qui est ensuite dit en toutes lettres, quoi, explicitement? Essayons de regarder si on voit une différence.
Mmh. Différence entre...
La parabole, elle dit quelque chose, et le Midrash... Après avoir amené la parabole, il traduit. Il traduit la parabole. Alors à quoi ça sert de nous donner la parabole si tu la traduis ensuite? Si la parabole, elle est là pour dire des choses qu'on ne pourrait pas dire, en général, c'est, on peut pas dire les choses parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Hachem directement. Alors on peut le dire par contre sur un maître. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est écrit ici, entre les deux?
On n'entend pas Hachem parler.
C'est-à-dire?
C'est pas explicite que Hachem parle. Et là, la phrase, si j'essaie de vous trouver les toutes petites différences, il y a écrit Moshe Lishamaim Hitri Lomar Achar Borho HaTorah. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, dans le ciel, il commence à parler après son créateur de la Torah.
Oui.
C'est pas explicite que dans cette formulation, moi, il apparaît pas que Hachem parle, comme dans le Machal où on dit le Rav, me semble-t-il, hein, le Rav, Omer à Rav, Vehu Oné, le Omer à Rav, Vehu Oné, ce duo-là, un par l'autre répond, alors que c'est vrai que nous, on sait que, évidemment, Moshe, il n'a fait qu'apprendre là-bas. Et on dit même qu'il a eu beaucoup de mal à retenir. Bon, et c'est vrai, je ne sais pas où ça mène. Et une fois elle est au féminin, une fois elle est au masculin, qu'est-ce que ça veut dire? Que chez l'Imada. C'est la
Torah. Non, c'est les paroles de la Torah.
Voilà. Ouais. Et pourtant, et alors, Ad Shelo Limdo,
ça veut dire. Il lui a enseigné.
Il lui a enseigné.
Xenia, je suis en chiot, Xenia. J'essaie de te rappeler après le chiot. Ok? Il est aux États-Unis alors. Oui, regardez le Etz Yosef. C'est celui de l'intérieur. Commentaire ici. Maoule d'Aberito, vous l'avez, c'est dans le dernier tiers. Il y a un vav.
Ah oui.
Pas pourquoi.
Un peu mangé sur le côté, hein.
Je vous lis ce qui est écrit. Maoule d'Aberito, qu'est-ce que veut dire le d'Aberito? Alors il dit, Shelo yitzdak alashon aze ela ben adam le re'eu, shedomelo. Et d'abord, ito, ça veut vraiment dire deux égaux. D'accord. Et ça, donc, ça ne va que si on parle de deux hommes qui parlent ensemble. Et par conséquent, aval bedibur Hachem le Adam, quand c'est Hachem qui parle à l'homme, en lo marken. On ne peut pas utiliser cette expression. Donc, ça veut dire qu'en fait, le Midrash, il n'est pas du tout justifié de dire que Hachem. Ils ont parlé comme d'égal à égal, en vérité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire directement. Olezé Amar, Shehuderech Machal, Keravi Matalmid, Lachar chez l'amada davar que ogen. Va kavana lo dienu chez l'amada dvarim que ogen. Ça vient nous enseigner que Moshe a bien appris les choses. Mais maintenant, si on regarde maintenant, revenez sur le texte, est-ce qu'on voit mieux un peu ce que le problème que ça, qui est posé ici? Lorsque le Rav, le machal c'est Talmid chez Limdo Rabo Torah. Talmid, son maître, lui a enseigné la Torah. Et on dit Ad Shelo Limdo, avant qu'il le lui ait enseigné, c'est-à-dire dans le processus d'enseignement. Enseigner veut dire qu'il la connaît complètement. Donc tant qu'il ne la connaît pas vraiment, Aya Rav Omer, Veu Oneh Acharav. Alors le maître disait, et lui, il répond après. Après son maître, il répète. Mi chez Limed Oto, après qu'il lui ait enseigné, Omer Lo Rabo, Bo Venomra Ani Veata. Alors le maître lui dit, viens, on va le dire, toi et moi. Ok. Car, Kshala Moshe la Shamaim, Itril Lomar Achar Boro a Torah. On a l'impression que Moshe, quand Moshe est arrivé au Sinaï, Hachem, il enseigne la Torah, et lui, sans qu'Hachem lui ait dit répète ou n'importe quoi, on n'a pas annoncé que c'est un processus d'apprentissage. Bon, comme si Moshe avait pris de lui-même l'initiative de parler, de jouer le rôle de l'élève. Donc quelque part, il décide que Hachem est en train de lui parler à lui. Alors qu'en fait, Hachem, il dit la Torah. Il dit, Hachem dit la Torah, c'est... comme quelqu'un qui parle, et puis il y a des gens qui comprennent, et qui s'en mêlent, quoi, sans qu'ils aient été expressément invités à le faire. Donc lui, il a décidé, d'après, de répéter après son créateur. Ici aussi, on entend, c'est pas son, il n'est pas vu comme son maître ici. Il répète après le créateur, son créateur. C'est-à-dire, leur rapport, c'est quand même un rapport de créateur à créature. Ici. Et lui, il répète, la créature répète à partir après le créateur. Keshel Mada, Keshini Mada, Amar, et quand il l'a apprise, la Torah, on ne dit pas, comme on m'a dit avant, Michelimed Oto. C'est comme si Moshe Rabbeinu l'avait appris la Torah tout seul. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu l'a apprise, la Torah, alors Hachem a dit, là il faut quand même introduire le créateur ici, Bo venomra ani veata. Viens, on va la dire, toi et moi. Donc qu'est-ce qu'il y a comme grande différence? C'est que, la grande différence c'est que Hachem n'est pas présenté du tout comme maître. Hachem n'est pas le maître de Moshe Rabbeinu. Il est même dans cette situation-là, il est le créateur. Et Moshe Rabbeinu, quand il s'invite, peut-être que ça veut dire que Hachem lui a fait monter au Sinaï et que devant lui il dit la Torah. C'est, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On raconte que l'Ephraim de Vologine, il allait voir son maître, le Gaon de Vilna, une fois par an. Il venait avec tous ses cahiers, avec plein de questions, et le Gaon, il ne lui laissait pas poser ses questions. Le Gaon, il dit, on parle de quoi? Sur quoi tu veux poser des questions? Et le Gaon enseignait à haute voix, enfin, il étudiait la Torah à haute voix devant un prêtre. Et les questions, elles tombaient comme ça. Donc, il ne répondait pas à une question directement. Il lui disait tout de suite comment il faut lire, en quelque sorte. Comment il le corrigeait tout de suite. Et pas... Donc, d'une certaine manière, à part ça, je pense qu'il y avait d'autres moments où ils discutaient ensemble, mais ce qu'on raconte ici, c'est un peu, même presque un peu étrange. C'est-à-dire que le Gaon connaissait tellement bien son élève, il savait très bien que, ok, il suffit que je lui dise comment il faut. Mais ça, c'est une... Ça se discute aussi. Parce qu'on vous a déjà raconté l'histoire d'un Bourbère, au Chiou de Kamenitz, qui était comme jeune homme, il est allé à Volozhin, il est allé étudier la Torah chez Ephraim Briska. C'est Ephraim de Brisk qui était reçu là-bas. Lui, il était un petit génie, un Bourbère. Bon, il a entendu un... D'abord, il est venu, il avait une question sur... Il croyait qu'il allait entrer. Il avait une question sur le père de Ephraim, sur le Bétalévi. Il a une question. Alors, il était tout content, quoi. Il est allé chez Ephraim, il a dit qu'il avait une question, alors Ephraim l'a écouté. Et puis, il s'attendait que Ephraim corrige, etc. Et tout ce que Ephraim a dit, « Le tate d'Afen Fashtein. » Bon, le père, mon père, il faut le comprendre. Il n'a rien expliqué du tout. Bon, c'était comme ça. Dans les chivotes, qu'il n'attrape pas la grosse tête, qu'il est venu tout de suite avec une grosse question sur le Beth Alevi. Et alors, à Pessah, il est rentré chez lui, Bourbert, et il a rejoint le groupe de ses copains qui étudiaient avec le rab de la ville, ou entre eux, quoi. Et puis ils étudiaient. Alors il s'est joint à eux. Et il se trouve qu'ils étudiaient la Maseret que lui, il avait apprise avec chez Ephraim. Alors, bon, ils sont là, alors ils disent, le Marchaud, il dit comme ça, Yoshua, il dit comme ça, et tous les commentateurs discutent de ça. Et après, lui, il dit, le Rebbe, il a dit comme ça. Après, il m'a dit comme ça. Bon, ils l'ont laissé passer une fois. Deuxième fois, discussion. Hein. Le Rebbe, il a dit comme ça. Ils ont dit, tu nous casses les pieds avec ton Rebbe. Qu'est-ce qu'il a de plus que les Sfarim, ton Rebbe? Il y a les livres, alors, bon, on a des livres, on cite des auteurs, des géants, quoi. Alors évidemment, Reb Bourbert, quand il est retourné à Volozhin, il est allé voir Ephraim, il a dit, j'ai étudié avec mes copains, et ils m'ont demandé qu'est-ce que le Rebbe il avait de plus que les Sfarim. Alors Ephraim lui a dit qu'un Sefer, il te dit ce qu'il faut dire, mais il ne te dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Un Rebbe, il est là pour te dire aussi ce qu'il ne faut pas dire. Le Rebbe, il doit te présenter les différentes... chose et t'expliquer pourquoi ça c'est pas bon, etc. Le Sefer, il te dit comment il faut dire, il te dit pas obligatoirement comment il faut pas dire, c'est ce qu'il faut pas dire. Alors là, d'après le Gaon, d'après ça, le Gaon, il a pas expliqué à Ephraim de Volozhin pourquoi c'était faux ce qu'il disait. Il lui a enseigné. Moi, je pense que c'est une partie de l'anecdote, elle est pas complète, parce que je pense pas que le Gaon, il ait pas enseigné à Ephraim qu'est-ce qu'il y avait de pas correct dans ce qu'il lui proposait. Non, mais c'est juste pour raconter que le Gaon, il parlait, et Ephraim, il écoutait, et il comprenait. Donc ici, on peut très bien imaginer que Akadosh Baruch Hu, il parlait, disait la Torah, et Moshe, il s'est greffé dessus, et il s'est mis à répéter. Et quand Hachem a vu que, voilà, maintenant, il a vraiment bien compris... Alors il l'a invité à dire avec lui. Et seulement, c'est pas le... Mais Hachem n'était pas, d'après ça on voit, Hachem n'était pas le rébé de Moshe Rabbeinu. Ce midrash-là, il n'a pas l'air de penser qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu ses qualités. Donc, je suis ton maître et je t'enseigne. Non ? Le Créateur, Moshe Rabbeinu s'est greffé sur la chose. C'est ça qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que Hachem était le maître et qu'ensuite il a parlé avec son élève ensemble, ils ont dit la chose. Me semble-t-il, c'est la seule différence que je vois vraiment dans le texte ici. Donc c'est important de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est bien sûr que Hachem a enseigné de facto, il a bien enseigné à Moshe Rabbeinu. Mais il n'y avait pas c'était pas une posture de maître à élève, c'est quand même une posture de créateur à créature.
Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, a...
Il a compris que si Hachem l'a fait monter au Sinaï, c'était à lui à prendre l'initiative.
Donc, il a fait un peu, comment dire, une schizophrénie. Il s'est mis en position d'être à la fois le maître lui-même et l'élève, quoi, non ?
Non, pourquoi le maître ?
Comme s'il s'était enseigné.
Non.
D'un moment où il avait entendu la...
Ah, il a pris la posture de l'élève devant un maître qui lui a rien demandé, enfin qui lui a pas dit clairement qu'il était son élève. Et le maître le voulait comme... Il a compris qu'il avait le droit, puisque Hachem l'a fait monter au Sinaï pour lui raconter ça. Si Hachem lui dit toute la Torah, lui toute la Torah devant lui, c'est pas pour qu'il en prenne rien. Et c'était lui à prendre l'initiative. Et à ce moment-là, on peut très bien comprendre que puisque c'était à lui à prendre l'initiative, ensuite Hachem lui a donné les louchot, continue, c'est toi qui prends l'initiative. Moi, je te les donne. Puis après, c'est à toi
de savoir
est-ce que tu vas les casser ou pas, est-ce que tu vas les donner, etc. Ah, ouais. Moi, je te les donne. D'accord. Il met, puisque Moshe Rabbeinu s'est installé comme élève, donc il a pris une initiative, l'Ifne Hachem, si on peut parler comme ça, devant Hachem, alors Hachem lui dit, ok, alors continue, prends tes initiatives. C'est pour ça que c'est un sens de dire ça, parce que quand Hachem lui, quand il a cassé les louchot, Hachem lui a dit, Yasher kochacha shishibarta. Il a dit, tu as bien fait de les briser. Et il faut aussi entendre comment est-ce que Moshe Rabbeinu a eu le culot de briser les tables qu'Hachem lui a données. D'accord, peut-être, qui te dit que tu as le droit de les casser?
Ce sont pas lui.
Quelque part.
Et surtout, la conséquence après. Quand on sait la conséquence que ça a eu.
La conséquence elle-même, elle a été que, bon, mais ils n'avaient plus ces louchot.
Oui, et donc, c'est plus transparent, c'est plus difficile.
Oui, non, mais justement, c'est ça. Mais peut-être que, justement, le Hachem lui dit, si toi t'as jugé que c'était ce qu'il fallait faire, et moi je trouve que c'est bien que tu aies jugé ça. Je te laisse l'initiative. C'est vraiment, il lui a donné l'initiative, et je pense qu'il la lui a donnée parce que Moshe Rabbeinu l'a prise. Ici.
On retrouve la même posture où Moshe Rabbeinu voulait que le clan Israël soit associé pas seulement à Kabbalah de Torah, mais à...
C'est ça.
Donc même de la Torah.
C'est ça. Toute la démarche de Moshe Rabbeinu, c'est... Il a compris qu'il y avait une place pour l'homme et qu'Hachem voulait que l'homme s'investisse. Pourquoi ? Puisqu'on a vu que Moshe Rabbeinu l'a ajouté un jour. Donc il a décalé le don de la Torah, Moshe Rabbeinu. C'est impensable.
Sur le Kechaloto, au niveau du chat, c'est-à-dire une fois qu'il a terminé, mais qui a terminé ?
Kechaloto le daber ito, lorsque Hachem a terminé de parler avec lui, Moshe.
Oui, mais alors, si c'est Hachem qui a terminé de lui parler dans cette lecture qu'on vient de faire, là, j'ai cru comprendre que Hachem dit la Torah. Moshe Rabbeinu s'en saisit et parle. Mais
au début, il ne peut pas parler convenablement parce qu'il n'a quand même pas bien compris. Et peut-être qu'Hachem a cessé de lui parler quand? Ben quand il a vu qu'il avait compris.
Mais voilà, c'est ça. Cesser de parler la Torah. C'est vrai que c'est... Est-ce que ça veut
peut-être la façon...
dire... Ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que la Torah, il y a une fin?
Non, mais peut-être que simplement...
C'est un
quand Moshe, quand il a eu terminé, disons, il lui a donné les louchot. Moshe Rabbeinu a compris que voilà, c'est maintenant, c'est à moi. Il m'a donné quelque chose. Je suis d'accord que peut-être ce que le Midrash ne veut pas, justement d'après ça, il ne veut pas lire ce que vous objectez. C'est-à-dire, il ne veut pas lire que c'était une fin. Il dit Kechaloto, c'est-à-dire quand ça a été aussi cher à Moshe Rabbeinu qu'une kala, C'est ça le truc. Quand est-ce qu'il a su que Moshe Rabbeinu avait vraiment compris? Quand la Torah lui était aussi chère qu'une kala. Aussi précieuse qu'une kala. Khaloto le daber, ito, c'est-à-dire, quand, en parlant avec lui, elle est devenue comme sa kala, aussi désirable qu'une kala, alors Moshe Rabbeinu, alors Hachem lui a donné les luchot. Ça voulait dire, ok, fin de l'apprentissage, si on peut parler comme ça. Le but de l'exercice, c'est qu'elle te soit aussi chère. Et l'idée, c'est, ça ne peut pas être aussi cher qu'une kala si on n'a pas vraiment parfaitement compris. Si on n'a pas vraiment compris, alors ça ne peut pas être aussi précieux. Alors, dans la suite, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que il lui a dit... Alors maintenant, Resh Lakish, il dit, mais c'est pas terminé, c'est toujours comme ça, en fait. Du coup, en quelque sorte, on a appris d'Hachem qu'il fallait dire des divrei Torah pour, à quelqu'un qui est capable d'arriver à les apprécier comme une kala. Et si maintenant quelqu'un va dire des divrei Torah et qu'il n'arrive pas à les exprimer de telle sorte que la faute étant chez lui, pas chez les auditeurs, hein. C'est pas les auditeurs qui ne sont pas à la hauteur. C'est lui qui est, on dit, lui mieux valu qu'il ne le dise pas. Et si je me rappelle bien, Shumotsi divrei Torah ve'enan arevim al shumayen kekala, j'y arrive pas. Noachlo, il eût mieux valu qu'il ne les dise pas.
C'est-à-dire quand on n'arrive pas à dire des divrei Torah entendables. Entendables de
plus qu'entendables, ou... entendables et appréciables, très appréciables.
Oui, oui.
Alors, d'une certaine manière, il vaudrait mieux pas les dire. Et j'ai l'impression que c'est... Il ramène là, de tout en bas du Etz Yosef, là, tout en bas de la page, que Kalash est Areva le Baala, dans le Tanchuma, il a une autre version, il dit pas le Baala, mais Al Baala, et il ajoute, Umitava li yot shomea et dvarea. Il dit comme ça, il dit, ça doit être tellement agréable aux auditeurs. Oui. C'est tellement agréable aux auditeurs que pour eux, c'est le même type de jouissance qu'a un mari à entendre les paroles de sa kala. Donc la kala, elle n'est pas en train d'écouter les livres de Torah. Au contraire, lui, il a envie d'écouter la kala. Il désire la kala, donc il veut entendre au moins sa voix. Et ce degré de jouissance-là, d'envie, de désir, d'accord, ce doit être une jouissance, c'est une mesure de la jouissance des auditeurs. S'ils n'arrivent pas à transmettre la Torah de sorte que ça génère chez les auditeurs ce genre de plaisir, alors il vaut mieux qu'ils se taisent. C'est Resh Lakish qui parle.
En fait, c'est une métaphore qui serait très générale. C'est que, par exemple, quand les Israël, malheureusement, ne conduisent pas exactement comme il faudrait, ils sont considérés comme une épouse adultère, comme une épouse adultère. Donc là, ça renverse un peu la...
Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là, ici. Oui. Ici, la jouissance du mari à entendre les paroles de la Kala. Oui, c'est la mesure de la... Du désir d'entendre les paroles de Torah qu'ont les auditeurs.
Und dass sie probieren, der Rekut, dem Israel, Hachem.
Qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous dites?
Ça suppose qu'il y a une déroute, une attente majeure des ministres d'Israël par rapport à
Kadosh. Non, mais là, il ne parle pas d'Akadosh Boko, il parle de quelqu'un. Le Midrash parle de Kol Mish et Umotzi, Divrei Torah. Il parle, c'est l'homme qui parle.
À travers celui qui donne, qui fait le Divrei Torah, il y a Kadosh Boko.
Donc si on ouais, non, mais ici,
il écoute celui qui fait le Shiur. Parce qu'il dit les paroles de Torah, pas parce que c'est lui.
Non, mais bien sûr que ce n'est pas parce que c'est lui. Mais il s'agit qu'il puisse les dire de telle sorte qu'elles provoquent chez les auditeurs une telle jouissance.
Oui, mais est-ce que ça dépend seulement de lui? Ça ne dépend pas aussi des auditeurs et
Justement, ce qui est surprenant, dans ce Midrash, c'est qu'il semble que ça dépende essentiellement de lui.
C'est là-dessus, justement, que j'avais un doute.
Oui, je ne vais pas lever votre doute, mais tel que je vois le texte, c'est comme ça.
Alors, quel lien il y a avec Kechaloto? Parce que là, c'est donc pour expliciter Kechaloto, cette image-là.
Oui.
Et en quoi ça l'est?
C'est que Kalato.
Ah, que Kal, pardon.
Okay. Kechaloto, que Kalato.
Oui, d'accord.
C'est bien cette idée. Bon, alors c'est vrai qu'on pourrait dire que les auditeurs, ils sont aussi pour quelque chose. Qu'est-ce qu'ils en peuvent si lui, il n'a pas de... Mais il faut qu'il trouve le langage adéquat pour que les auditeurs soient comblés, quoi.
Et qu'ils aient le sentiment que la Torah leur parle à eux.
Tellement fortement que, comme... Ouais. Et qu'ils en désirent, quoi. Ils désirent encore plus de Torah, puisque ce qu'il leur donne est tellement jouissif.
Et que ça s'adresse à eux.
Le problème, c'est effectivement, là, on met l'accent sur celui qui est motzi divrei Torah. C'est intéressant. Ou motzi divrei Torah. Il,
et ça,
il fait sortir.
C'est un peu la traduction du. Qui, sur justement le Kalotto les Daber et tout, il dit Viam les Moshekat chez Tse les Malala. S'il prend le terme de Motsi, sort de la parole. Prend pas le sens Kalotto comme on l'a pris de l'achever, quoi, de terminer. Mais bon, pour moi.
Non, mais c'est pas la Yetzia, c'est pas, il n'y a pas de.
Mais est-ce qu'il faut comprendre? Parce que moi j'ai du mal. Est-ce qu'il faudrait comprendre que ce Kechaloto, dans cette explication, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu a entendu. Avec autant de plaisir cette Torah que Hachem parlait, comme un fiancé qui écoute sa fiancée. Est-ce que c'est le lien qu'il faut comprendre pour, c'est l'image qui est donnée pour comprendre Kechaloto, c'est ça? C'est Moshe qui est ici l'auditeur de la Torah qu'il entend parler par Hachem. D'accord.
Et du coup, Monsieur Tout le Monde aussi, quand il enseigne la Torah, il doit faire comme ça. Le Midrash ici fait un sérieux travail de glissement par rapport à... On peut au moins lire la suite. Alors Resh Lakish, il a dit... maintenant, il continue, et toujours Rish Lakish, il continue le modèle. De la même manière que donc la Kala, elle est parée de 24 comme on a dit, d'accessoires, bijoux et autre chose.
Parure,
ou est-ce que vous voulez, oui. Et bon, dans la traduction en anglais, on dit qu'en fait ça fait référence à un pasouk dans Ishaïa, cette histoire des 24 ornements, parures, etc. Alors un Talmid Chacham, il doit être aussi à l'aise, donc mais il doit maîtriser les 24 livres. Voilà, c'est difficile de comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Une Kala, elle a 24 parures, disons. Alors, le Talmid Chacham, il doit aussi avoir 24 parures. Ces 24 parures à lui, c'est la maîtrise des 24 livres de la Torah. Donc, quand il va parler, effectivement, sa maîtrise est telle qu'elle a le même effet, sa maîtrise des 24 livres a le même effet sur ce qu'il est en train d'enseigner, il n'enseigne pas tout à la fois, il enseigne quelque chose, mais sa maîtrise est telle, cette maîtrise, elle joue le rôle des ornements de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire comme quelqu'un qui, dans ce qu'il présente, c'est cette idée de ce qu'il présente, disons, il présente un morceau de Torah. Seulement, il le dit avec tout l'en plus que peut donner à cette parole de Torah, le fait de connaître parfaitement les 24 livres de la Torah. Non, mais moi j'ai peut-être dit accessoires, et en fait c'est mieux parure. Ou
on a... Parure, mais c'est.
Oui, parce que.
On sait que c'est extérieur. Et que
oui, mais c'est extérieur. Non, mais ça embellit la chose. Il veut dire que le Talmid Chacham, il doit aussi. Ce qu'il va dire, c'est du béton armé, mais il faut qu'il. Quand il a cette maîtrise de. Il y a des citations, etc., ou les histoires, tout ce qu'il peut mettre, qui va permettre de faire comprendre mieux, ou d'enrichir, ou
justement. De rendre désirable la Torah.
Oui, c'est-à-dire que quelque part, les parures, elles sont là pour rendre la Kala encore plus belle, plus désirable, a priori. C'est ça l'idée, non? Pourquoi est-ce qu'on parle la Kala, Kala? Et donc la même chose ici, c'est-à-dire les parures sont pas l'essentiel. L'essentiel c'est la Kala, mais néanmoins on met des parures à la Kala. Et dit aussi l'essentiel, c'est ce que le Talmid Chacham est. C'est un sage, c'est quelqu'un qui connaît, il sait très bien de quoi il parle. Mais en plus, il a une connaissance qui va bien au-delà de ce sur quoi il est en train de parler. D'accord? Et donc il peut trouver des il peut ornementer, il peut rendre plus agréable, il peut donner des éclairages, parce que les parures, les diamants, ça donne une certaine lumière, donc ça permet, ça reflète la lumière, donc ça permet d'éclairer les divers Torah de toutes sortes de façons, et 24, ça semble être une totalité, c'est comme il se trouve qu'il y a 24 livres, bien, il y en a peut-être 24 parce que pour la même raison, c'est ça, cette notion de totalité. Pourquoi 24? C'est un peu compliqué de savoir pourquoi 24, parce que ça ne correspond pas à quelque chose de... Par la suite, il va y avoir les Mishmarot, par exemple, les groupes de Kohanim qui sont de service. Il y a 24 Mishmarot, il y a 24 groupes de Kohanim.
Il y a 24 heures.
Il y a 24 heures aussi, c'est vrai. Je regardais. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas dire plus. Visiblement, ce que lui, il est en train de dire, c'est que les Divrei Torah, elles, c'est pas suffisant si on veut d'être localement très fort, quoi. Il faut aussi un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a une connaissance beaucoup plus large de ce sur quoi il parle explicitement. Ensuite, il dit.
Donc là, ici, c'est pour dire. Voilà, c'est le mot col qui est ici à chercher à être approché. Un kechaloto, c'est pas terminé,
oui,
c'est
oui.
Dans la totalité. Hein, enfin, Moshe, faut.
C'est une totalité et toujours à voir avec l'image de la Kala. Toujours cette idée de la Kala. On va épuiser le
mot Kechaloto,
avec le mot Kala. Alors ensuite, il dit. Alors justement, la Kala, il y a deux temps dans la vie de la Kala. Il y a un temps pour être réservé, caché, et un temps pour être dévoilé en quelque sorte. Le Talmid Chacham aussi, lui aussi, il doit être caché et aussi dévoilé. Dévoilé, c'est sur quoi il doit se dévoiler?
Les
Ma'asim Tovim. C'est-à-dire en fait des bonnes actions, des mitzvot, etc. C'est-à-dire autre chose que l'étude elle-même. D'accord, il va dévoiler quelque chose d'autre que l'étude elle-même. Ça, c'est le dévoilement. Alors, pourquoi? Et ça, c'est assimilé au fait que la Kala, sous la Chupa, quand elle
se dévoile.
Elle dévoile son visage. Ouais. Elle dévoile son visage. Ici, le visage est donc assimilé au Ma'asim Tovim. Le visage et les bonnes actions, les mitzvot, c'est la partie visible de l'iceberg. Et pour le reste, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit discret. C'est intéressant, c'est-à-dire que la discrétion, elle porte sur son étude, visiblement. Pour l'essentiel, la Kala, son essence, c'est d'être réservé. Et sous la Chupa, ce qu'elle dévoile, c'est son visage, c'est en tout et pour tout le visage. Donc c'est pas du tout ses midot, on voit même pas ses qualités.
Quand on parle de réservé, c'est signaut.
Oui. Tsanoua, c'est réservé, c'est. Et donc là aussi, lui, il doit être tsanoua, il doit être réservé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est son étude. C'est-à-dire, il doit pas bluffer avec ce qu'il sait, etc. T'as pas besoin de montrer tout ce que tu sais. On te demandera quelque chose, tu répondras, mais t'as pas besoin de faire étalage de tes connaissances. Par contre, ce qu'il faut montrer.
Pourquoi est-ce que c'est juste par.
Par tsniout.
C'est ça aussi.
C'est la tzniut. C'est la réserve.
Pour lui ou pour aux personnes à qui il enseigne. Enfin, c'est-à-dire, c'est pour l'humilité, pour la tzniut. Quelle vertu ça a de ne pas tout.
Quelle vertu ça a pour une Kala de, quand elle est chez elle, d'être tellement. Caché, quoi. Parce que c'est pas nécessaire de se dévoiler. Alors l'histoire, c'est quand c'est pas nécessaire. La tzniout, c'est ne pas faire plus, montrer plus que ce qui est nécessaire.
Et alors, je réitère la question de Bernard. Quelle vertu ça a ?
De ne pas montrer ?
Oui, plus que ce qui est nécessaire.
C'est comme ça. Il faut savoir que chaque fois que vous dites quelque chose, quelque part, vous démunissez, vous abandonnez quelque chose. Par exemple, quand on a un fridouche ou quand on a une idée, si vous dites l'idée, voilà, elle vous appartient plus, non seulement, mais elle n'a plus le même charme, elle n'a plus. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas continuer de la travailler, ça ? J'ai plus le même entrain à travailler cette chose-là. À partir du moment où elle est dans le domaine public, en quelque sorte, c'est comme si on se vidait de quelque chose. Donc ce n'est pas nécessaire.
C'est un cadeau.
Hein ?
On offre aux autres.
On peut offrir aux autres quand c'est nécessaire. Du coup, c'est nécessaire. C'est quand il s'agit de donner à quelqu'un précis. Mais stam, tous azimuts, c'est donner, c'est pas donner à tout le monde comme ça, mais sur la place publique. Talmid Chacham, c'est tsanoua. Tu veux, tu me poses des questions, je te. Oui, il doit pas dire qu'il sait pas quand il sait, quand on me pose des questions. Mais le reste du temps, non, je ne sais pas.
Du coup, ça devient des maasim tovim quand il va dire quelque chose.
Quand ça va être donné à quelqu'un, alors c'est il y a de la générosité, du coup, c'est les maasim tovim. Mm-hmm. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Et c'est par générosité qu'il l'a donnée au Bnei Israël. Ah, oui. Donc c'est bien cette idée que dès que tu donnes, il faut que ce soit de la générosité. Sinon, c'est comme si tu n'accordais pas de valeur à ce que.
C'est gaspillé.
Ouais.
Et là, c'est difficile à entendre l'idée qu'elle a été donnée à Moshe, sachant qu'il y avait quand même les Israël.
Non, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ça a été donné à Moshe ? C'est pas que. C'est la même chose que cette fameuse histoire de Sifrei Torah. Quand Moshe Rabbeinu l'a écrit son Sefer Torah, il l'a donné à la tribu de Lévi. Les autres tribus, ils ont poussé des hauts cris. Ça veut dire. Tu la donnes à une tribu, bon, il se trouve que c'est la tienne, etc. Mais même si c'était une autre, peu importe. Mais ces gens-là. Nous aussi, on veut en être. Tu leur donnes, alors il n'y a qu'eux qui auront la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Mon cher ami était très content qu'ils ont protesté, parce qu'il dit, ah, enfin, ça fait 40 ans que j'attendais que vous compreniez quelque chose à la Torah. Parce que ce qui serait passé, c'est que ce que craignaient les autres, c'est que la Torah a été donnée à la tribu de Lévi. Donc les gens de la tribu de Lévi vont étudier la Torah, ils vont établir à partir de cette étude, ils vont établir des règles de comportement, ils vont écrire un Shulchan Aruch après un code de comportement d'après leur étude, puis ensuite ils vont évidemment donner ça au Bnei Israël. Dans la Torah, ce n'est pas marqué que c'est pour les Lévi, seulement c'est d'abord à Bnei Israël. Mais au Bnei Israël, eux, ils seront comme les prêtres égyptiens, etc., ou prêtres partout, qui ne disent pas comment ils sont arrivés, etc., ils disent la loi, voilà ce que vous allez faire. On leur donne le dalos de la Torah. On va leur donner.
Shulchan
Aruch seulement. Et eux, alors les ministres, pas du tout. Nous, on veut être dans l'élaboration, on veut étudier la Torah et élaborer le Shulchan Aruch. Si Moshe Rabbeinu avait gardé la Torah pour lui, bien sûr, et lui, il aurait travaillé, etc., il aurait dit aux Bnei Israël, voilà comment vous devez vous conduire. Ils auraient eu la Torah, les Bnei Israël. La Torah passant par Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu a fait, c'est qu'il leur a donné la Torah et dit, vous pouvez tous étudier, tout le monde peut y aller.
Je disais, c'était pas la Torah que Hachem a donné, mais une Torah.
C'est celle de Moshe, vous voulez. Une Torah, oui, parce que la Torah, elle va être développée par chacun d'entre nous. Et comme on dit, comme disait Pirkei Avot, c'est nous qui soufflons sur les braises. Ça dépend du souffle qu'on a, si les braises vont joyer ou si ça va donner des flammes, etc. Donc ça dépend de ce que tu as dans le coffre, quoi. Ça dépend. Donc la Torah, elle est toujours la Torah de chacun d'entre nous.
Oui, c'est-à-dire que comme s'il y avait déjà une déperdition entre celle d'Hachem et celle de Moshe.
Non, pourquoi une déperdition? Au contraire, c'est-à-dire que du coup, la Torah, c'est l'ensemble de tout ce que les Bnei Israël vont produire comme Torah.
Oui.
Oh non, on va s'arrêter là.
Donc là, c'est le dernier Kichalato, là, ce serait de dire, de la même manière que ta Kala,
oui.
elle est Tsnoua. Et
elle se
dévoile sous la choupa.
Seulement le visage, oui.
Son visage, pardon, voilà, elle dévoile son visage sous la choupa. De la même manière, toi, Moshe, et donc le Tamil Chacham qui avait appris la Torah, vous devez être tsnouim, vous devez être discret par rapport à votre étude. En revanche, s'il y a quelque chose à dévoiler,
c'est les Massim Tovim. C'est-à-dire, il ne faut pas créer sur les toits, mais il faut les faire.
Il y a plus à dévoiler les Massim Tovim que à dévoiler le fait qu'on étudie tous les jours dans une yeshiva.
Oui, on va voir ce que tu produis. Quoi. Normalement, dans la façon dont on fait les Massim Tovim, ça doit refléter le niveau d'études. En théorie, tous les actes que nous faisons, en réalité, il devrait être le prolongement de l'étude. J'étudie, et puis le prolongement, voilà comment est-ce que ça, dans certaines circonstances, ça va se concrétiser, ça va se réaliser sous cette forme-ci ou sous cette forme-là.
Mais en quantité ou en qualité?
Parce qu'on
pourrait entendre aussi que ça pourrait être sur... Évidemment, c'est plus souhaitable en quantité, mais sur un certain nombre de mitzvot, l'étude enrichit le...
Lire le nombre de mitzvot ou bien...
Non, le nombre, je...
Oui.
Vous dites que ça pourrait être un prolongement...
C'est un prolongement de l'étude,
Le nombre, un grand nombre, mais ça pourrait être aussi que l'étude...
L'approfondit le geste, oui.
Oui, le geste.
Le geste ou le contenu, oui, bien sûr, c'est ça qu'on dit. C'est ça le prolongement. Le prolongement, c'est pas seulement que, voilà, ça débouche sur une mitzvah. Maintenant, quand tu regardes la Gemara, quand tu vois les discussions, tu entends toutes sortes de choses sur la façon dont on doit faire la mitzvah en question. Et il y a des choses qui ne sont pas rapportées dans le Shulchan Aruch. Parce qu'on n'a pas imposé à tout le monde. Mais celui qui travaille le Talmid Chacham, il a toutes sortes de façon de faire les choses qui diffèrent. C'est pour ça que le Rambam il dit, un Talmid Chacham, il est reconnaissable dans tout. Il mange pas comme tout le monde, il boit pas comme tout le monde, il parle pas comme tout le monde, il s'habille pas comme tout le monde, etc. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait est pensé à l'aune de ce que la Torah demande. C'est ça que dit Rambam.
Est-ce que les commentaires qu'on vient de lire, ils expliquent Rabbi Lévi, Rav Lévi, ou non?
Je n'ai pas vu, non, vraiment.
D'accord.
Thank you.
Merci.
Shtor, Gutenard, Gutchab.
Gutenard, Gutchabes.
Gutzumer.
Gutchabes.
Chavez.